Parc national de Sarek, un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. https://fr.wikipedia.org. L'article comprend les sections suivantes. Toponymie. Géographie. Géologie. Milieu naturel. Histoire. Gestion et réglementation, tourisme. Le parc national de Sarek, en suédois Sareks Nationalpark, est un parc national du nord de la Suède, dans la commune de Jokkmokk, du comté de Norrbotten, en Laponie. Il couvre 1970 km² dans les Alpes scandinaves et est bordé par les parcs nationaux de Padjelanta et de Stora Sjöfallet. Le parc est la zone la plus montagneuse de Suède, avec 19 sommets de plus de 1900 mètres, dont le Saretjoko, deuxième plus haut sommet du pays, avec 2089 mètres. Le parc est parcouru par la rivière Ropaedno et la vallée de Rapadalen, qui forment l'artère du parc. Cette rivière, alimentée par une trentaine de glaciers, transporte des quantités de sédiments qui, en se déposant, ont créé plusieurs deltas tout au long du cours de la rivière. Un de ces deltas, le delta de Laitaure, est l'icône du parc. Sarek, ainsi que le reste de Laponie qui l'entoure, sont souvent qualifiés de « plus grandes zones encore vierges d'Europe ». En fait, le secteur du parc est habité depuis environ 7000 ans par les Samis, peuple nomade du nord de l'Europe. Ils vivaient initialement de la cueillette et de la chasse, en particulier aux rennes, mais peu à peu, ils ont développé une culture basée sur l'élevage de cet animal associée à des déplacements de transhumance. La principale zone de pâture des rennes en été est cependant le parc de Padjelanta, Sarek n'étant essentiellement qu'un lieu de passage. Les Suédois, eux, ne commencèrent à s'aventurer dans ces montagnes qu'à la fin du XIXe siècle, principalement à des fins scientifiques. Le plus éminent, Axel Hamberg, plaida alors pour la protection de cette zone et fut soutenu par le célèbre explorateur polaire Adolf Erik Nordenskiöld, ce qui aboutit en 1909 à la création du parc national de Sarek et simultanément à celle de 8 autres parcs nationaux, les premiers parcs nationaux de Suède et même d'Europe. Le parc et la région furent classés en 1996 patrimoine mondial de l'UNESCO, en partie pour sa nature préservée et pour une culture toujours présente. La faune et la flore du parc ont conservé l'essentiel de leur diversité originale. En particulier, le parc constitue un refuge pour les grands mammifères carnivores suédois, pour la plupart menacés dans le pays. L'avifaune du parc présente aussi une grande richesse, en particulier autour des zones humides. Le parc national de Sarek est considéré comme l'une des plus belles zones naturelles de Suède. Cependant, du fait de sa piètre accessibilité ainsi que du peu d'infrastructures touristiques, il n'est visité que par environ 2000 personnes par an. Première section, toponymie. Dans le parc national de Sarek, comme dans la plupart de la Laponie, un grand nombre de toponymes tiennent leur origine des langues sam, plus précisément le sam de Lul. Ils ont souvent deux graphies distinctes. Une graphie sam et une graphie suédoise qui en dérive et qui dominait initialement, mais petit à petit remplacée par la graphie sam dans les cartes. Par exemple, la principale rivière du parc est appelée Rapaedno en sam, mais souvent orthographiée Rapaetno en suédois. Les suffixes des toponymes les plus courants dans le parc sont Tjokko, signifiant montagne, Vage, vallée, Jokko, petite rivière, Lakko, plateau, Edno, rivière, Javre, lac. Parfois, d'autres variantes sont également utilisées dans la région, dont le finnois, par exemple Järvi pour lac. Lienjärvi est ainsi un petit lac touchant le parc voisin Stora Sjöfallet. Le nom Sarek provient probablement soit d'un mot signifiant un mâle renne, soit un bois de renne pointu, soit du mot « sarai », voulant dire « myrtille ». Deuxième section, géographie. Première sous-section, localisation et frontières. Une carte des parcs nationaux de Sarek, Padjelanta et Stora Sjöfallet illustre cette sous-section. Le parc national de Sarek est situé dans la commune de Jokkmokk, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière norvégienne, dans le comté de Norrbotten, à l'extrême nord de la Suède. Il est ainsi entièrement situé au nord du cercle arctique. Le parc couvre une superficie de 197 000 hectares, ou 1970 km², ce qui en fait le deuxième plus vaste de Suède. Il est bordé par les parcs nationaux de Padjelanta à l'ouest et de Stora Sjöfallet au nord, pour une superficie cumulée d'environ 5500 km². Un grand nombre de réserves naturelles sont aussi situées à proximité immédiate. Deuxième section, deuxième sous-section, relief. Pour illustrer cette sous-section, il y a une photo de la vallée d'Alkavage dans le parc et une vue en relief du parc depuis le sud-est, avec le Borde et ses glaciers au premier plan. Le parc national de Sarek est la région la plus montagneuse de Suède, et nulle part ailleurs dans le pays, il n'est possible d'avoir une telle impression de paysage alpin. Dans le parc, 19 sommets de plus de 1900 mètres sont présents, dont en particulier le deuxième plus haut sommet de Suède après le Kebnekaise, le Sarretjoko, culminant à une altitude de 2089 mètres. L'altitude minimale dans le parc se trouve au sud-est, près du lac Ritak, avec 477 mètres. Le parc est constitué de trois éléments de relief, parfois difficiles à distinguer les uns des autres. De larges vallées, des massifs montagneux et des hauts plateaux. La principale vallée du parc, qui est aussi la plus célèbre, est Radapallen, Rappovorge. Cette vallée pénètre le parc sur plus de 40 km et compte plusieurs ramifications, les plus importantes étant Saresvage, qui remonte jusqu'au parc de Padjelanta, Guopervage, s'écoulant sur près de 20 km, et Ruotesvage, entouré de nombreux glaciers, dont ceux du mont Sarretjoko. Parmi les autres vallées notables, n'appartenant pas au réseau de Rappadalen, Gurkesvage forme la frontière nord-est du parc, et Njotsosvage se situe près de la frontière sud. Le plus grand plateau est Aivarlako, à l'est du massif de Parte, avec une altitude allant de 660 à 850 mètres. À l'ouest du massif de Parte, le plateau Luotolako, d'une superficie d'environ 45 km², a une altitude supérieure, située entre 1200 et 1400 mètres. Enfin, entrecoupés par ces vallées et ces plateaux, se trouvent des massifs montagneux, avec souvent plusieurs sommets. Les principaux massifs sont le Sarretjoko, point culminant Stortoppen, 2089 mètres, le Borde, point culminant Bordejoko, 2005 mètres, le Bielorjeppe, point culminant Gadokaskotjoko, 1978 mètres, l'Oalgasie, point culminant Akatjoko, 1974 mètres, l'Eper, 1914 mètres, le Skorki, 1842 mètres, et le Ruotes, 1804 mètres. Deuxième section, troisième sous-section, climat. Quatre images illustrent cette sous-section, la vallée de Saresvoge en hiver, et trois images montrant la neige sur le Sarretjoko à l'été 1994, à l'été 2006 et au soleil de l'hiver. Le climat du parc est partagé entre l'influence océanique à l'ouest et l'influence continentale à l'est. La première est caractérisée par des températures douces et une importante humidité, alors que le climat continental est plus sec et présente des étés chauds et des hivers froids. Ceci se traduit dans le parc par de grandes variations de temps au cours de l'année, mais aussi, selon l'endroit où l'on se trouve, le climat peut être inattendu et très instable. Le relief très découpé du parc amplifie ces caractéristiques. À titre indicatif, un relevé météorologique d'un point de Sarek est donné ci-dessous, mais dû au relief, les variations locales sont importantes. Par exemple, les précipitations au niveau de Sarek atteignent une moyenne annuelle supérieure à 2000 mm, contre seulement 460 mm à Ritzen, non loin de là, dans le parc de Stora Sjöfallet. Cette quantité de précipitations figure ainsi parmi les plus fortes de tout le pays. L'altitude influence aussi grandement la température. La température moyenne en août, à 1830 mètres au niveau du mont Borretjoki, étant de moins 1 degré Celsius, alors qu'elle est autour de 10 degrés Celsius dans les vallées. Le gradient de température est d'environ 1 degré Celsius tous les 100 mètres d'altitude en pleine journée. La neige commence en général à tomber dès le mois de septembre et la couverture neigeuse s'installe durablement à partir d'octobre-novembre. Elle persiste parfois jusqu'en juin et, sur les sommets, des névées peuvent se maintenir durant tout l'été. En outre, du fait de sa position au nord du cercle arctique, le parc connaît le soleil de minuit en été et la nuit polaire en hiver. Relevé météorologique de Sarek, de 1901 à 2009. Température minimale moyenne. Janvier, moins 22,2 degrés. Février, moins 22,6 degrés. Mars, moins 19,8 degrés. Avril, moins 13,6 degrés. Mai, moins 6,8 degrés. Juin, moins 1,2 degrés. Juillet, 2,2 degrés. Août, 0,8 degrés. Septembre, moins 3,6 degrés. Octobre, moins 8,7 degrés. Novembre, moins 15,5 degrés. Décembre, moins 19,9 degrés. Moyenne sur l'année, moins 3 degrés Celsius. Température moyenne. Janvier, moins 17,8 degrés. Février, moins 18,3 degrés. Mars, moins 15,3 degrés. Avril, moins 9,6 degrés. Mai, moins 3,1 degrés. Juin, 3,4 degrés. Juillet, 6,6 degrés. Août, 4,7 degrés. Septembre, moins 0,4 degrés. Octobre, moins 6,3 degrés. Novembre, moins 12,3 degrés. Décembre, moins 15,9 degrés. Moyenne sur l'année, moins 7 degrés Celsius. Température maximale moyenne. Janvier, moins 13,5 degrés. Février, moins 14 degrés. Mars, moins 10,8 degrés. Avril, moins 5,7 degrés. Mai, 0,7 degrés. Juin, 7,9 degrés. Juillet, 11 degrés. Août, 8,6 degrés. Septembre, 2,8 degrés. Octobre, moins 3,9 degrés. Novembre, moins 9,2 degrés. Décembre, moins 11,9 degrés. Moyenne sur l'année, 4 degrés Celsius. Précipitations. Janvier, 87,8 mm. Février, 57,7 mm. Mars, 64,7 mm. Avril, 49,3 mm. Mai, 56,4 mm. Juin, 86,1 mm. Juillet, 115,6 mm. Août, 112,5 mm. Septembre, 85 mm. Octobre, 73 mm. Novembre, 81,2 mm. Décembre, 84,4 mm. Total sur l'année, 954 mm. Nombre de jours avec précipitation. Janvier, 26,1. Février, 23,4. Mars, 20,5. Avril, 16,9. Mai, 14,8. Juin, 17,6. Juillet, 20,2. Août, 20,2. Septembre, 21,4. Octobre, 20,9. Novembre, 24,6. Décembre, 26,2. Total sur l'année, 253 jours. Ces données sont également visualisées dans un diagramme climatique. Deuxième section, quatrième sous-section, hydrographie. Deux images illustrent cette sous-section. Le delta de l'Aitor vu depuis Skjerf et le delta de l'Atjärv. La principale rivière du parc est le Rapaedno. Elle prend sa source dans les glaciers du massif du Sarretjokko et parcourt ensuite la vallée de Rapadalen jusqu'au lac Laitore, qui tend ainsi le parc. Elle rejoint la rivière Lilla Luleälven, qui finalement forme le fleuve Luleälven à sa confluence avec le Stora Luleälven. Cette rivière est alimentée par une trentaine de glaciers, ce qui contribue à un important débit. Elle a le débit spécifique, c'est-à-dire le ratio entre le débit moyen et le bassin versant, le plus important de Suède. Le débit dépend fortement de la saison, étant en moyenne de 100 mètres cubes par seconde en juillet et autour de 4 mètres cubes par seconde en hiver, pour un débit moyen annuel d'environ 30 mètres cubes par seconde. Le Rapaedno transporte aussi une très importante quantité de sédiments. En une journée d'été, elle peut charrier entre 5000 et 10 000 tonnes de sédiments, cette quantité n'étant que de quelques tonnes en hiver, de sorte qu'en une année, le cumul atteint 180 000 tonnes. Ces sédiments expliquent la couleur gris-vert de la rivière ainsi que la formation d'immenses deltas. Un important delta est ainsi formé à la confluence de la Rapaedno avec son principal affluent, la rivière Sarvesjoko. Juste après la confluence, le fleuve s'anastomose pendant près de 10 km, formant une zone dénommée Rapaselet. Enfin, le plus célèbre des deltas, véritable emblème du parc, est le delta de Latjärv, que la rivière forme en se jetant dans le lac Latjärv. Les autres rivières importantes correspondent aux principales vallées citées précédemment, la plupart faisant partie du bassin versant de l'île Luelelv, mais les rivières du nord du parc se jettent dans le lac Akkajaure, dans le parc national de Stora Sjöfallet, et font ainsi partie du réseau hydrographique du Stora Luleälven. Le parc comprend aussi plusieurs lacs avec une eau souvent cristalline. Les principaux sont l'Alkjärve, altitude 751 mètres, à la frontière du parc de Padjelanta, le Bjerekjärve, altitude 820 mètres, près du parc de Stora Sjöfallet. Certains lacs de plus petite envergure existaient auparavant dans les glaciers, la glace de certains glaciers faisant barrage aux ruisseaux formés par d'autres. Avec le recul des glaciers, la plupart de ces lacs ont disparu, mais leurs traces sont encore visibles. Troisième section, géologie. Première sous-section, formation. Une image du lac de Bjerekjärve et de la montagne Bjerekbakte illustre cette sous-section. Le parc national de Sarek fait partie des Alpes scandinaves, une réminiscence de la chaîne calédonienne qui est aussi à l'origine des montagnes de l'Écosse, de l'Irlande, du Groenland et du Svalbard. L'orogenèse calédonienne est liée à la collision des plaques Laurentia et Baltica entre 450 et 420 millions d'années avec la disparition par subduction de l'océan Iapetos. La chaîne fut ensuite continuellement érodée jusqu'à former une péniplaine. Il y a environ 60 millions d'années, un rift apparut au niveau de l'ancienne chaîne qui finalement aboutit à la formation de l'océan Atlantique. À partir d'environ 60 millions d'années, Cénozoïque, la partie scandinave aussi bien que la partie nord-américaine subirent un important soulèvement tectonique. Les causes de celui-ci ne sont pas claires et plusieurs hypothèses ont été proposées. Une de ces hypothèses est l'influence du panache islandais qui aurait soulevé la croûte. Une autre hypothèse est l'isostasie liée aux glaciations. Dans tous les cas, ce soulèvement permit de rehausser l'ancienne chaîne de plusieurs milliers de mètres. Troisième section, deuxième sous-section, érosion. Une image du glacier Mika dans le massif de Sarretjokko illustre cette sous-section. La chaîne, ainsi rajeunie, est alors sujette à une nouvelle période érosive glaciaire. Il y a 1,5 million d'années, au début du Quaternaire, une série d'importantes glaciations touche la région. Des glaciers commencent à se développer et à envahir les vallées, puis peu à peu s'unifient pour former un Inland 6 qui recouvre totalement la région. Plusieurs glaciations se succèdent ainsi, forgeant l'actuel paysage avec des vallées en auge, des cirques glaciaires, des nunataks, etc. L'impact géologique sur la chaîne soumise à l'érosion dépend fortement de la nature du terrain, ce qui explique la diversité des reliefs en son sein. Ainsi, si le relief de Sarek, comme celui de Kebnekaise, est bien plus prononcé que celui des autres zones, en particulier les deux parcs nationaux voisins, c'est en grande partie grâce à l'existence de dikes, de diabases et de diorites résistantes à l'érosion. En effet, le parc se trouve dans un essaim de dikes qui date de 608 millions d'années, ce qui correspond probablement au début de l'apparition du rift lors de la formation de l'océan Iapetus. Ces dikes représentent des intrusions dans la nappe de Saretyoko, une nappe de charriage composée de sédiments probablement déposés dans le bassin du rift. Troisième section, troisième sous-section, glaciologie. Une image du massif du Borde et ses glaciers caractéristiques illustre cette sous-section. Le parc comprend plus de 100 glaciers, constituant l'une des plus importantes concentrations du pays. Ces glaciers sont relativement petits. Le plus grand, le Borde Yeina, dans le massif de Borde, atteint seulement 11 km². À titre de comparaison, le plus grand glacier de Suède, le Stora Yeina à Sulitelma au sud de Padjelanta, mesure 13 km². L'évolution de ces glaciers peut être étudiée grâce aux travaux menés à la fin du XIXe siècle par Axel Hamberg sur le glacier de Mika, 8 km². La plupart des glaciers subissent une évolution similaire. Entre 1883 et 1895, ils ont généralement reculé, puis ont un peu avancé entre 1900 et 1916, avant d'entamer une nouvelle retraite. Leur taille s'est ensuite stabilisée, voire accrue, ce qui est interprété comme une augmentation des précipitations hivernales liées au réchauffement climatique, compensant l'effet des températures estivales plus hautes. Le retrait des glaciers a cependant repris à un rythme particulièrement rapide au cours des années 2000. Quatrième section, milieu naturel. Le parc de Sarek est d'après la classification du WWF situé dans l'écorégion terrestre des forêts de bouleaux et prairies d'altitude scandinave, avec une petite partie dans la taïga scandinave et russe. Il n'est pas le site le plus riche du pays, ni même de la région, en ce qui concerne la faune et la flore. Ceci s'explique en particulier par le fait que le parc, excepté le sud et le sud-est, s'élève au-dessus de la limite de croissance des conifères, située vers 500 mètres d'altitude dans la région. De même, contrairement à une grande partie de la région, le parc de Sarek possède peu de vastes lacs et de marais. En tout, environ 380 espèces de plantes vasculaires se trouvent dans le parc, et 182 espèces de vertébrés, dont 24 mammifères, 142 oiseaux, 2 reptiles, 2 amphibiens et 12 poissons. Plusieurs de ces espèces sont sur la liste rouge des espèces menacées en Suède, notamment les grands carnivores. La végétation suit un étagement assez strict, fondé sur le climat et impliquant également un étagement similaire de la faune, bien que souvent moins strict. Quatrième section, première sous-section, étage montagnard. Une photo des forêts entre les branches du delta de l'Athiavre illustre cette sous-section. L'étage montagnard est relativement rare dans le parc, sa limite supérieure se situant à environ 500 mètres d'altitude, sous ses latitudes septentrionales. La flore de cet étage est une forêt primaire, constituée de conifères, principalement le pin sylvestre, Pinus sylvestris, ou l'épicéa commun, Picea abies. Les pins peuvent atteindre une très grande taille, ce qui est en particulier le cas autour du lac Ritac, au sud du parc. Les sous-bois sont principalement recouverts de mousse et de lichen, en particulier le lichen des rennes, avec également quelques myrtilles, de la camarine noire, Empertum nigrum, et de l'érelle rouge, Vaccinium vitis idaea. Ces forêts sont l'habitat privilégié de nombreuses espèces animales, parmi les grands carnivores, l'ours brun, Ursus actos, est fréquent dans le parc comme dans le parc voisin de Stora Sjöfallet. L'ours s'aventure aussi fréquemment dans l'étage subalpin. Le lynx boréal, Lynx lynx, classé espèce vulnérable en Suède, est aussi courant autour des lacs Ritac et Latiavre, mais remonte aussi dans les forêts subalpines de la vallée de Rapadalen. Le renard roux, Vulpes vulpes, est relativement fréquent et étend peu à peu son territoire vers les étages supérieurs, entrant alors en concurrence avec le renard polaire, Vulpes lagopus. Pour les plus petits mammifères, la martre des pins, Martres martes, la belette, Mustela nivalis, et l'hermine, Mustela herminea, sont très fréquentes, mais l'hermine habite aussi facilement les étages supérieurs. Parmi les herbivores, les lins, Alces alces, est présent en très grande quantité, les forêts et les zones humides lui offrant une grande quantité de nourriture. Il a souvent une taille particulièrement impressionnante dans le parc avec ses énormes bois. Parmi les oiseaux caractéristiques des forêts de pins, il est possible d'apercevoir un certain nombre de strigiformes, tels que la chouette de l'Oural, Strix uralensis, et des piscidés, en particulier le pic tridactyle. La mésange lapone, Petzilecintus, est aussi particulièrement fréquente, tout comme la grive litorne, Turdus pilaris, la grive musicienne, Turdus philomelos, et la grive mauvis, Turdus iliacus. Les reptiles et les amphibiens, dont le lézard vivipare, Zootoca vivipara, la vipère péliade, Vipera berus, et la grenouille rousse, Rana temporaria, sont aussi principalement représentés dans ces forêts. Les vipères de la région du Ritac atteignent fréquemment des tailles remarquables. Quatrième section, deuxième sous-section, étage subalpin. Deux photos illustrent cette sous-section. Prairies et forêts dans la vallée Rapadalen et un renne dans une vallée de Sarek. L'étage subalpin est principalement constitué d'une forêt primaire de bouleaux. Ces forêts sont exceptionnelles en densité et en richesse grâce aux quantités de sédiments arrachés des montagnes et déposés par les cours d'eau. C'est en particulier le cas dans la vallée de Rapadalen. En général, la transition entre les forêts de conifères et de bouleaux est plus ou moins continue, le bouleau étant souvent présent dans les forêts de conifères et une proportion qui augmente avec l'altitude jusqu'à la disparition totale des conifères. La taille des arbres diminue proportionnellement à l'altitude. La limite haute de ces forêts de bouleaux, et donc la limite des arbres, varie grandement dans le parc, allant de 600 mètres dans la vallée de Tjulda à plus de 800 mètres dans la vallée Rapadalen. Les forêts de bouleaux comprennent aussi d'autres espèces d'arbres, parmi lesquelles le sorbier des oiseleurs, Sorbus incuparia, l'aune blanc, Alnus incana, le tremble, Populus tremula, et le mérisier à grappes, Prunus padus, sont relativement courants. La laitue des Alpes, Cicerbita alpina, est très répandue à cet étage et constitue une nourriture privilégiée par les ours. L'angélique officinale, Angelica arcangelica, est aussi présente et croît jusqu'à atteindre parfois 2 ou 3 mètres. Plusieurs autres plantes de cet étage atteignent des tailles relativement exceptionnelles. La frontière entre les forêts de bouleaux et de conifères étant relativement floue, un grand nombre des espèces animales citées précédemment sont aussi présentes à l'étage subalpin. Quelques mammifères sont cependant plus fréquents ici que dans les forêts de conifères, avec en particulier plusieurs petits rongeurs, tels que la musaraigne commune, Sorex araneus, ou le campagnol agreste, Microtus agrestis. Par ailleurs, les rennes, Rangifer tarandus, domestiqués par les Samis, sont présents à cet étage au printemps, puis ils montent en été à de plus hautes altitudes. Les ours bruns sont très courants dans les vallées de Tjulda et Rapadalen. Cependant, la principale richesse de cet étage et la grande quantité et variété d'oiseaux. Le pouillot-phytis, Philoscopus trochilus, le ciserin flammé, Carduelis flammea, le pinson du nord, Fringilla montifringilla, la bergeronnette printanière, Motacilla flava, le traquet moto, Eunante eunante, et le gorge bleu à miroir, Luchinia svechica, font partie des espèces caractéristiques des forêts de bouleaux du parc. Le lagopède des saules, Lagopus lagobus, est également l'une des espèces communes de ces milieux. Dans ces forêts peuvent aussi être observées régulièrement des rapaces, le faucon émirion, Falco columbarius, et le buse battu, Buteo lagopus, bien qu'il niche le plus souvent dans les falaises. Le faucon gerfaut, Falco rusticolus, et l'aigle royal, Aquila chrysaetos, normalement présents à de plus basses altitudes, sont malgré tout présents dans le parc. Quatrième section, troisième sous-section, étage alpin. Une photo de la prairie fleurie de l'étude des Alpes sur les pentes du parc illustre cette sous-section. L'étage alpin est lui-même divisé en plusieurs sous-étages. Le premier d'entre eux est principalement constitué de landes, avec en particulier des arbrisseaux d'aunes, des mousses, des lichens et fréquemment de denses tapis de camarine noire. On trouve aussi du lycopode des Alpes, Diphasiastrum alpinum, allié au busserol des Alpes, Arctostaphylos alpinus, et formant un tapis particulièrement coloré en automne. Localement, pousse du Silène à caule, Silène à caulis, et Pedicularis laponica, apportant de la couleur aux landes, qui sont autrement monotones. Dans les sols calcaires, la végétation est plus riche, formant des prairies avec de la dryade à 8 pétales, Dryas octopetala, comme espèce caractéristique, mais également de la saxifrage à feuilles opposées, Saxifraga oppositifolia, et la Bartzia des Alpes, Bartzia alpina, du pied de chat alpin, Antennaria alpina, et de la Véronique des Alpes, Veronica alpina. En montant en altitude, les saules nains, Salix herbacea, et différents lichens deviennent prédominants, formant ainsi un deuxième sous-étage. Progressivement, les plantes se font de plus en plus rares, et au-dessus de 1500 mètres, seules 18 plantes sont encore présentes. Trois mammifères rares sont présents à cet étage. Le glouton, Gulogulo, dispose un vaste territoire s'étendant jusqu'aux forêts de conifères en hiver, mais son principal territoire est l'étage alpin. Il se nourrit avant tout de charogne, mais peut aussi chasser les petits rongeurs, les oiseaux et les insectes. Il s'agit d'une espèce menacée en Suède, avec une estimation de 360 individus présents dans le pays en 2000. Le renard polaire, espèce en danger de disparition en Suède, avec 50 individus dans tout le pays, creuse des réseaux extensifs de terriers au-dessus de la limite des arbres, plusieurs familles pouvant habiter un même terrier. Enfin, le parc est l'un des derniers refuges du loup, Canis lupus, espèce classée en danger de disparition en Suède. En 1974-1975, un seul loup fut trouvé dans l'ensemble du pays, précisément dans le parc. Depuis, leur nombre a progressé, mais ils n'ont toujours pas retrouvé une population fixe dans le parc. En dehors de ces trois mammifères, la présence du lemming des toundras de Norvège, Lemus lemus, est attestée. Sa population est extrêmement variable en nombre, avec certaines années de massifs pics de population, suivi immédiatement par un déclin très rapide. Ce phénomène n'est pas tout à fait compris. Il semble que des conditions climatiques favorables, et donc un surplus de nourriture, soient responsables de la rapide croissance des populations, mais la raison de leur subi déclin n'est pas claire, bien que des maladies contagieuses semblent jouer un rôle. Ces cycles influencent aussi les animaux qui chassent le lemming. Beaucoup d'oiseaux de ces altitudes sont associés aux zones humides, mais en dehors de ceux-ci sont également retrouvés le lagopède alpin, Lagopus muta, le harfang des neiges, Bubo scandiacus, l'alouette oscol, Eremophila alpestris, le pipi farlouze, Anthus partensis, le bruant des neiges, Plectrophenax nivalis, et le bruant lapon, Calcarius laponicus. Quatrième section, quatrième sous-section, zones humides. Une image des linaigrettes dans le parc national illustre cette sous-section. Si le parc ne présente pas les vastes marais ou lacs qui caractérisent le reste de la région, l'eau n'en demeure pas moins un élément omniprésent. Ces zones humides peuvent présenter une grande richesse de diversité en faune et flore. L'étagement de la végétation reste également valable dans ces zones humides. Ainsi, à l'étage montagnard, les sols humides sont couverts de fleurs telles que le laidon des marais, Rhododendron tomentosum, des lignes aigrettes, Ranunculus laponicus, la renoncule tête d'or, Ranunculus auricornus, la pyrrole à une fleur, Munesses uniflora, la brunelle commune, Prunella vulgaris, et le gaillet des marais, Gallium palustre. À l'étage subalpin, les prairies humides sont composées principalement par des tapis de trolls d'Europe, Trollius europaeus, de populages de marais, Calta palustris, et de la pensée à deux fleurs, Viola biflora. Enfin, à l'étage alpin, elles sont complétées par Pedicularis sceptrum carolinum, mais la richesse de ce milieu diminue avec l'altitude. Les zones humides du parc sont avant tout réputées pour leur grande diversité d'oiseaux. Ainsi, la grue centrée, Grus grus, le chevalier sylvain, Tringa glaereola, et le hibou des marais, Asiouflameus, s'observent aux plus faibles altitudes, tandis que la sarcelle d'hiver, Anas creca, le canard siffleur, Anas penelope, le fuligule milouinant, Aitia marilla, la harle huppée, Mergus serrator, le phragmite des joncs, Acrocephalus scenobenus, et le bruant des roseaux, Emberiza scheniclus, sont fréquents dans le delta de l'Atiavre et le lac de Boarekiavre. À une plus haute altitude encore, le lac Vardoyavre est lui aussi riche en oiseaux, avec de nombreux canards, ainsi que le pluvier doré, Pluvialis apricaria, caractéristique de l'étage alpin, et ce, même en dehors des zones humides. Le lac de Lovdayavrasi, à la frontière avec Padjelanta, est intéressant d'un point de vue ornithologique. Ainsi, quelques espèces rares y sont présentes, telles que l'oanarine, Anser erythropus, la bécassine double, Gallinago media, et le pipi à gorge rousse, Anthus cervinus, ainsi que l'arelde cacaoui, Clangula hiemalis, et la barge rousse, Limosa laponica. Enfin, le plateau de Luotolaco est aussi digne d'intérêt, avec en particulier une concentration de bécasseaux violets, Calidris maritima, supérieure à n'importe où ailleurs en Suède. Dans les cours d'eau du parc, l'ombre chevalier, Salvelinus alpinus, la truite, Salmotruta, et le veron, Phoxinus phoxinus, ont été observés. Cinquième section, histoire. Première sous-section, les Samis. Une photo de la montagne Skierfe, un site sacré chez les Samis, illustre cette sous-section. Les premiers habitants de la région arrivèrent au moment du retrait de l'Inland Seas, il y a 8000 ans. Il s'agissait probablement des ancêtres des Samis, peuple nomade habitant le nord de la Scandinavie. Ils vivaient initialement de la cueillette et de la chasse, en particulier des rennes. Pour ce peuple, les montagnes revêtaient souvent une connotation religieuse et plusieurs constituaient ainsi des siedi, c'est-à-dire des lieux de culte. Des sacrifices d'objets, par exemple des bois de rennes, étaient souvent réalisés en ces lieux. Un des siedi les plus importants en Suède se situe au pied de la montagne de Skierfe, 1179 mètres, à l'entrée de la vallée de Rapadalen. Les Samis de toute la région convergeaient vers ce point pour les cérémonies. Le massif d'Epar lui était considéré comme la maison des démons et la légende rapporte dans le massif la présence du fantôme d'un enfant illégitime. Malgré leur mode de vie de chasseurs-cueilleurs, les Samis conservaient quelques rennes domestiques avec eux, qu'ils utilisaient pour le transport et la production de lait, entre autres. Mais à partir du XVIIe siècle, le nombre de rennes domestiquées augmenta et les Samis commencèrent à organiser leurs déplacements en fonction des besoins de pâture des rennes. Peu à peu, la chasse aux rennes sauvages fut ainsi remplacée par l'élevage. Dans les montagnes, les Samis développèrent alors peu à peu un schéma de transhumance. Ils passaient en effet l'hiver dans les plaines à l'est du parc et se déplaçaient vers les montagnes en été, principalement Padjelanta. Sarek était alors principalement un lieu de passage, même si certaines prairies, Skaria et Bielajavratia en particulier, étaient utilisées pour la pâture. Quelques huttes, kota, furent construites dans le parc et utilisées lors de ces grands déplacements, qui pouvaient durer plusieurs semaines. Peu à peu, ils laissèrent paître naturellement les rennes, les Samis ne suivant plus les troupeaux de la même façon. Cinquième section, deuxième sous-section, Sarek et les Suédois. Deux photos illustrent cette sous-section, une habitation Sami près de Buarek et la station d'Axel Hamberg près du sommet de Paretjoko. Lorsque le territoire Sami fut intégré à la couronne suédoise, les Samis durent payer des taxes au même titre que les autres Suédois. Au XVIIe siècle, les Samis furent évangélisés par ces derniers qui construirent des églises et des marchés, le plus souvent aux endroits où les Samis avaient l'habitude de passer l'hiver. Pour les Suédois, les montagnes avaient un aspect effrayant et dangereux, et ils n'osaient donc pas s'y aventurer. Ainsi, lorsque les premiers gisements métallifères furent découverts dans la région, les Suédois tentèrent de convaincre des Samis de prospecter dans les montagnes pour trouver de nouveaux gisements, en particulier d'argent. Mais de manière générale, les Samis n'osaient pas dévoiler ces informations par crainte de critiques des autres Samis. En effet, une telle découverte impliquait que les Samis allaient sans doute par la suite être enrôlés de force dans l'exploitation de la mine et dans le transport du minerai. Le gisement d'Alkavere, dans le parc de Sarek, constitue une exception et fut dévoilé par un Sami très pauvre qui fut ensuite très mal vu par son clan. Quoi qu'il en soit, l'exploitation de la mine commença en 1672, mais elle ne s'arrivera pas rentable et fut donc abandonnée en 1702. Cette mine fut parfois reprise sans succès par quelques individus. Les ruines des deux bâtiments ainsi qu'une petite chapelle sont encore visibles à proximité. Le premier Suédois à réellement explorer ces montagnes fut Carl von Linné lors de son expédition Lapone en 1732. Il fallut attendre encore les années 1870 pour que Gustav Wilhelm Burt établisse la cartographie de la région. Peu de temps après, le français Charles Rabot furent le premier à gravir le sommet Saretjoko en 1881. Les années 1890 marquèrent le début des expéditions scientifiques systématiques. En particulier, à partir de 1895, Axel Hamberg, qui avait participé à l'expédition vers le Groenland avec Adolf Erik Nordenskjöld, commença son étude de la région. Il étudia le parc, et en particulier ses glaciers, jusqu'à sa mort en 1931. Il réalisa notamment une carte de bien meilleure qualité et fit construire 5 cabanes dans le parc pour faciliter ses études. Les travaux d'Axel Hamberg furent particulièrement importants pour la reconnaissance du parc auprès d'un large public. Cinquième section, troisième sous-section, protection. Une photo aérienne montre les limites du parc. La création en 1872 du premier parc national au monde à Yellowstone suscita un élan universel de protection de la nature. En Suède, l'explorateur polaire Adolf Erik Nordenskjöld fut le premier à proposer la mise en application de ce nouveau concept pour protéger la nature suédoise. Axel Hamberg, Adolf Erik Nordenskjöld et d'autres plaidèrent ensemble pour la création des premiers parcs nationaux du pays et en particulier de Sarek. Ils convainquirent le botaniste suédois Carl Starbeck de l'université d'Uppsala d'aborder la question au Parlement duquel il était membre. En mai 1909, la proposition fut acceptée et les 9 premiers parcs nationaux, non seulement de Suède mais aussi d'Europe, furent créés. Ceux-ci incluaient Sarek et entre autres son voisin Stora Sjöfallet. Le motif officiel pour la création du parc est de préserver un paysage de haute montagne dans son état naturel. Au milieu du XXe siècle, avec les développements massifs de l'hydroélectricité en Suède, les grands fleuves du nord du pays furent parsemés de barrages. Ces barrages atteignirent même les parcs nationaux. Le parc national de Stora Sjöfallet en particulier fut amputé d'une grande partie de sa superficie avec la création d'un barrage en 1919. Mais en 1961 fut signé un accord appelé la paix de Sarek, Freden i Sarek, pour empêcher les développements hydroélectriques dans le parc de Sarek, ainsi que sur certaines rivières appelées rivières nationales. Ceci entraîna aussi, en 1962, la création du parc national de Padjelanta et l'extension du parc de Sarek avec une zone au sud de Buarek. En 1982, l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, mentionna une vaste zone comprenant le parc national de Sarek dans sa liste indicative des sites naturels dignes d'être classés patrimoine mondial de l'UNESCO. La Suède proposa alors une partie de cette zone, la réserve naturelle de Sjönaja, pour l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Mais l'UICN conseilla en 1990 une extension du site proposé. En 1996, le parc de Sarek, ainsi que les aires voisines de Padjelanta, Stora Sjöfallet, la réserve naturelle de Sjönaja, la réserve naturelle de Stuba, le parc national de Mudus et trois petites zones adjacentes, pour un total de 9400 km², furent classées au patrimoine mondial par l'intermédiaire du site mixte culturel et naturel dénommé Région de Laponie. Le parc fait aussi partie du réseau Natura 2000. L'inscription au patrimoine mondial permit au parc d'avoir son premier plan de gestion, qui est désormais rédigé en général au moment même de la création d'un parc, ce qui n'était pas le cas à l'époque de la création de Sarek. Ce plan de gestion fut élaboré en concertation avec les Samis, qui n'avaient pas été consultés lors de la création du parc. Ce processus fut récompensé par le WWF. Dans le plan directeur du Naturvårdsverket de 2007 pour les parcs nationaux, il est prévu que le parc de Sarek soit agrandi pour inclure la partie manquante du delta de Latjavre ainsi que la vallée de Tuoldavagge au sud du parc. Cette extension avait déjà été proposée dans le plan directeur de 1989, mais la situation a changé avec l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'extension proposée faisant partie du bien région Laponie. Sixième section, gestion et réglementation. Première sous-section, cas général. Depuis le 1er janvier 2013, la gestion et l'administration du parc et de l'ensemble du site région de Laponie est entre les mains de l'organisation Laponia Tuotudus, littéralement gestion de Laponie en Sam de Lul, regroupant les villages Sami occupant le site Baste Tjärnu, Sirges, Turpon, Unatjärush, Jogokaska, Tjelde, Luokta, Mavas, Slakka, Utja et les Sami des forêts de Jalivare, les communes de Jokmok et Jalivare, le comté de Norrbotten et Naturvårdsverket. Les règles du parc sont relativement strictes afin de préserver le parc dans l'état quasi vierge qui le caractérise. Ainsi, la pêche, la chasse, la cueillette ou toute autre activité pouvant nuire à la nature sont interdites, à l'exception de la cueillette de baies et de champignons comestibles. De même, tout véhicule motorisé est interdit dans le parc. Sixième section, deuxième sous-section, l'exception Sami. Une photo illustre cette sous-section, les troupeaux de rennes en pâture dans le parc. Et une carte montre les zones d'élevage du renne dans les trois parcs voisins. Les Samis bénéficient de plusieurs dérogations aux règles suscitées. En effet, depuis 1977, le peuple Sami est reconnu par la Suède comme peuple autochtone et minorité nationale, ce qui implique que le peuple et son mode de vie sont protégés par la loi. Ainsi, les Samis ont le droit de pratiquer l'élevage de rennes dans le parc. Aussi, le parc étant situé sur le territoire des villages Samis de Sirkas, Jogoskaka et Tuorpons, les Samis rattachés administrativement à ces villages ont le droit de faire pâturer leurs rennes dans le parc. Dans le cadre de ces activités, les Samis ont le droit d'utiliser des véhicules motorisés, tels que le motoneige ou l'hélicoptère. Ces droits particuliers ne sont pas sans créer de conflits avec la protection de la nature. Par exemple, les carnivores s'attaquent parfois aux rennes des Samis, ce qui a conduit à l'abattage d'un loup en 2007, espèce pourtant protégée et très menacée en Suède. De même, l'utilisation de la motoneige et la pâture sont cause de dégradation pour la végétation endogène du parc. Ceci explique l'importance de la rédaction du plan de gestion du parc en concertation, entre autres, avec les Samis et des scientifiques. Septième section, tourisme. Première sous-section, histoire et fréquentation. Une photo d'un des rares ponts du parc le parc ne dispose que de très peu d'infrastructures touristiques, illustre cette sous-section. Le parc national de Sarek figure dans l'esprit des Suédois comme un des plus beaux paysages de leur pays. Enthousiasme initié par le livre d'Axel Hamberg sur le parc, présentant Sarek comme le joyau de la Laponie suédoise. Dès 1886, l'association suédoise de promotion du tourisme, Svenska Turistföreningen, STF, créée l'année précédente, mentionna Sarek comme un site touristique potentiel. Cependant, le nombre de touristes ne dépassa pas quelques dizaines. En 1900, l'association étudia la possibilité de créer un grand chemin de randonnée à travers les montagnes de Laponie, entre Abisko et Kvikkjokk. Le projet initial passait à travers le parc avec un chemin balisé, une traversée de Rapaselet en bateau et un refuge près de la rivière. Le projet fut cependant abandonné, le STF se concentrant principalement sur le Kebnekaise et le Sillamäe. Si le sentier en question, appelé Kungsleden, passe tout de même dans le parc, il ne longe que l'extrémité orientale. En 1946, Dag Hammarskjöld popularisa l'expression « Vår sista stora vildmark », notre dernière grande aire sauvage. Dag Hammarskjöld prôna ainsi le tourisme dans le parc sans porter atteinte à la nature. Le livre d'Edwin Nilsson sur Sarek en 1970 offrit une renommée accrue au parc, si bien que la fréquentation passa de 200 ou 300 touristes par an dans les années 1960 à 2000 en 1971. Cette soudaine affluence engendra quelques problèmes, parmi lesquels la saturation temporaire de certains sentiers de la vallée de Rapadalen, peu à même de canaliser des flux importants de visiteurs. Septième section, deuxième sous-section, activités et infrastructures. Si, malgré les différents attraits du parc, la fréquentation reste faible, c'est avant tout parce qu'il est très difficile d'accès. Il est possible de rejoindre le parc depuis Ritsem au nord, desservi par un bus depuis Gällivare, puis de prendre un ferry à travers le lac Akayaure et atteindre le parc par la marche. Cette voie est réputée être une des plus belles façons d'accéder au Sarek. Une autre façon est de traverser la rivière Stora Luleälven par le barrage. Depuis le sud, le parc est accessible par Kvikkjokk en suivant le Kungsleden ou depuis Staloluokta à Padjelenta. Il est aussi possible d'arriver dans le parc par hélicoptère ou par bateau, les Samis ayant le droit de survoler la zone ou de conduire des bateaux à moteur. Le parc en lui-même ne comprend quasiment aucune infrastructure. Il existe quelques ponts et sentiers, construits principalement pour la transhumance des rennes avec les Samis. En particulier, la vallée de Rapadalen est réputée pour être très difficile à remonter du fait du grand nombre d'affluents de la rivière à traverser et des denses forêts de bouleaux qui la recouvrent. Ceci rend le parc potentiellement dangereux, en particulier en cas de mauvaises conditions climatiques ou lorsque les torrents sont gonflés par la fonte des neiges, devenant alors difficile à traverser. Axel Hamberg a ainsi perdu deux de ses collaborateurs dans le parc et fut un des premiers à avertir de ces dangers. De même, il n'y a pas de refuge pour les touristes. Il est donc recommandé de ne pas s'aventurer dans le parc en l'absence d'expérience de la randonnée de montagne. Infobox Air protégé pour le parc national de Sarek. Une carte du parc national ainsi qu'une photo des anastomoses de Rapaselet accompagnent cette infobox. Géographie, adresse, Jokkmokk en Suède. Coordonnées, 60 degrés 17 minutes nord, 17 degrés 42 minutes est. Superficie, 1970 km². Administration. Type, parc national. Catégorie UICN, 2. Identifiant, 906. Création, 1909. Patrimonialité, Natura 2000, patrimoine mondial, 1996, inclus dans la région de Laponie. Visiteurs par an, 2000. Administration, Laponia Tuotiudus. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html.